Bonjour chez vous, avec Pascal Michop sur RCF Lorraine-Nancy.
Gérald Tenenbaum, bonjour.
Bonjour.
On a déjà eu l'occasion de vous recevoir il y a quelques années
pour un
autre livre. Et puis là, on est très très content que vous soyez là pour ce voyage dans le temps et dans l'espace qu'est ce livre Les Harmoniques. Alors déjà, Les Harmoniques, qu'est-ce que c'est ?
Les harmoniques, c'est à la fois un concept de mathématiques, quand on a des nombres qui sont dans un certain rapport, c'est un concept musical, c'est un concept acoustique, et c'est aussi les harmoniques d'une note, c'est-à-dire quand on a une note, eh bien on entend aussi la même note une octave au-dessus, puis deux octaves au-dessus, affaiblie. Donc c'est une histoire d'écho et de résonance.
Alors c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Alors il y a plusieurs originalités dans votre livre et on va commencer par celle-là. Vous nous faites sauter dans le temps, c'est-à-dire que on peut aussi bien être en 2015 qu'en 1993. Enfin voilà, je dirais pas qu'il faut s'accrocher parce que ça se fait quand même assez naturellement. N'empêche que il faut bien regarder à quelle date on est.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un livre choral où au départ on a des personnages qui sont dans des lieux différents et dans des temps différents et qui ne se connaissent pas, qui sont donc tout à fait indépendants, et donc on va suivre l'histoire de ces personnages dans leur temps à eux. Et ensuite, évidemment, bon, comme dans toute œuvre chorale, eh bien, les destins se croisent et puis les choses convergent et on arrive et à la fin, bon, on se retrouve dans un même temps et dans un même lieu. Mais disons que la logique est celle des parcours des différents personnages.
Pourquoi avoir choisi justement la France et l'Argentine, enfin surtout l'Argentine?
L'Argentine, ça m'a intéressé parce que c'est un pays qui est blessé, qui a cet arrière-plan de disparus, des disparus de la dictature. L'Argentine est encore un pays qui recherche les enfants qui ont été volés pendant la dictature. Il y a eu aussi un attentat avec des morts, avec donc des cérémonies, des commémorations. Et puis c'est aussi l'Argentine est aussi un pays qui a été meurtri par une grave crise économique qui l'a marqué. Et moi, je m'intéresse aux ressources individuelles des personnes pour dépasser leurs blessures. Donc, ce pays m'a intéressé. J'ai toujours eu envie d'y aller. Et maintenant que le livre est écrit, il est peut-être question que j'y sois invité. Donc, je pourrais peut-être y aller vraiment, en vrai.
Donc, cette rencontre des matheux à Buenos Aires,
oui.
Vous n'y étiez pas?
Non, j'y étais pas. C'est totalement imaginé, mais enfin je crois que c'est le travail d'un écrivain aussi d'imaginer les choses de manière suffisamment crédible pour qu'on puisse penser que ça s'est passé.
Alors, Gérald Tenenbaum, vous êtes d'abord mathématicien. Alors, je ne sais pas si il faut vous dire d'abord. Vous êtes en tout cas mathématicien et écrivain. On le sent dans votre livre que vous êtes mathématicien. Il y a dans celui-là, en tout cas, beaucoup de références aux mathématiques et aux mathématiciens, d'ailleurs.
C'est la première fois. Je suis mathématicien et j'ai toujours essayé de... Enfin, j'ai toujours séparé les deux activités. Mais pour ce livre, bon, c'est le 8e roman et j'ai eu envie d'ouvrir un petit peu, d'entrouvrir la porte ou de lever un coin du voile sur ce que peut être non pas le travail théorique d'un mathématicien, mais ce que peut être la vie d'un mathématicien, son parcours affectif, son rapport à l'abstraction, les difficultés que peuvent engendrer le fait d'être à la fois dans le réel, dans le concret, parce que il faut bien y être quand on est un être humain et qu'on a un corps, mais aussi en permanence dans l'abstraction et avec donc un rapport particulier à l'idéal. Et c'est vrai que pour un mathématicien, on vit en permanence dans un monde idéal, et du coup on a un petit peu tendance à vouloir que la vie réelle se rapproche de cet idéal, et ça crée une tension.
Alors, vous dites, Pierre, puisque Pierre est un mathématicien,
oui, tout à fait.
L'explorateur d'un univers cruel où la lumière ne filtre que par instants fugitifs, il évolue depuis si longtemps et avec un tel investissement personnel dans cette jungle de symboles enchevêtrés qu'il est devenu étranger à ce que chacun considère comme la réalité. Hein, une jungle de symboles enchevêtrés.
C'est vrai que quand on est investi dans une recherche mathématique, qu'on est dans la nuit parce que on ne sait même pas dans quelle direction on doit aller, on ne sait pas quel théorème on doit démontrer, on a des conjectures mais on n'est pas sûr. On est comme perdu effectivement dans une jungle où petit à petit les choses s'éclairent ou pas et ça peut durer très longtemps.
Alors. Pour continuer avec les références, vous dites aussi qu'à trop fréquenter les sciences, on désespère de l'univers entier. Donc les scientifiques sont des hommes désabusés, pessimistes ?
Oh, je dirais pas que... Non,
parce qu'en même temps, ils écrivent des bons romans comme celui-là, donc...
C'est vrai que les sciences c'est un domaine où on totalement rationnel et puis finalement ça ne suffit pas le rationnel, il faut autre chose et donc c'est ça qui fait dire à l'un de mes personnages, je crois que c'est Samuel en fait, le journaliste, il est journaliste scientifique, il vit dans un monde scientifique mais il a besoin d'autre chose, il a besoin d'une élévation. D'ailleurs tout le livre est parcouru par des arbres, je ne sais pas si ça vous est apparu, qui pointent leurs branches vers le ciel comme un signe d'aspiration à l'élévation, comme une imploration aussi du destin, comme l'indication qu'il y aurait un ailleurs qui maîtriserait l'ici. Et c'est cette tension qui existe entre les deux univers dont j'essaie de rendre compte dans ce roman.
Alors, Gérald Tannenbaum, vous avez voulu, avant d'être mathématicien, vous auriez voulu être poète. Ce que j'ai trouvé le plus poétique, il y a beaucoup de choses très, très jolies dans votre livre, c'est ce fossile de Marguerite de 47 millions d'années.
C'est quelque chose qui m'a vraiment...
C'est vrai ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. On avait retrouvé donc cet ancêtre, je l'appelle la Lucie de l'efflorescence, quoi. C'est cet ancêtre de toutes les Marguerites. Et bon, évidemment, la Marguerite, c'est ce qu'on effeuille, c'est ce que font les amoureux. Je t'aime un peu, beaucoup. Et donc, c'est vrai que mon personnage de Samuel fait le voyage jusqu'en Patagonie pour aller interroger les scientifiques qui ont retrouvé cette Marguerite de 47 millions d'années.
Alors vous aimez, c'est ça que j'aime, enfin j'aime bien dans les romans l'idée que voilà, on a une idée précise des personnages. Vous décrivez par exemple très souvent leurs vêtements.
Oui, hein, c'est vrai. Hein. Oui,
il y a un fameux imper beige aussi. Sur la ceinture traîne presque par terre.
Oui, ça c'est imper beige. Il a un sens symbolique, c'est-à-dire que on a un personnage qui a toujours besoin d'une membrane entre lui et le monde. Il n'ose pas plonger finalement. Il n'ose pas se mettre à l'eau, quoi. Je veux dire, il faut toujours qu'il ait une protection.
Et alors, ce qui m'a beaucoup, ce à quoi j'ai été sensible aussi, c'est que vous aimez les descriptions. Et vous aimez les descriptions avec beaucoup d'énumérations et vous utilisez les noms sans leur article.
Oui, ça m'arrive effectivement, c'est-à-dire que j'utilise le substantif comme un adjectif. Ça donne une sorte de résonance. J'ai une écriture qui est, empreinte de résonance. On lit ce qu'on lit, mais on peut quelquefois attendre autre chose, et du coup, on a les deux sens à la fois. Sur les descriptions des personnages. Il était très important pour moi d'avoir des personnages qui ont chacun leur musique, un petit peu comme dans Les Parapluies de Cherbourg ou comme dans les films. Donc chacun a son thème, et y compris les personnages secondaires, et ces thèmes se relient entre eux comme dans une symphonie, avec effectivement la possibilité d'une harmonie. Souvent, je déplore dans les romans que je lis quand on a plusieurs personnages, mais ils parlent tous de la même même façon. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, pour moi, c'était très important que chacun ait sa musique. Voilà.
Alors, comment est-ce qu'ils naissent, ces personnages, justement? Vous prenez des notes sur chacun pour lui donner une véritable musique ou une personnalité?
Alors c'est pas à partir de notes, j'imagine le personnage, je le vois. Alors effectivement, la manière dont il est habillé, c'est-à-dire l'habillement, c'est aussi le rapport au monde. Donc c'est la manière dont on s'habille, ça signifie aussi l'image qu'on veut renvoyer aux autres, par exemple, et aussi celle qu'on se renvoie à soi-même dans la glace. Donc j'imagine mes personnages, j'imagine leur psychologie, leurs contraintes, leurs différentes tensions, et à partir de là, ils prennent vie. Et ensuite, alors c'est vrai que tous les écrivains le disent, mais c'est la vérité, on s'aperçoit que les personnages ne peuvent pas faire n'importe quoi. Je veux dire, à un moment donné, on peut avoir prévu quelque chose, et puis on s'aperçoit que non, que les personnages finalement refusent de faire ce qu'on avait prévu, ils vont faire autre chose. Et là, on peut se dire que voilà, que le roman commence à prendre vie.
Il y a une affection particulière pour certains ?
Ah oui, tout à fait. Il y a quelquefois, il y a des personnages secondaires qui sont au départ prévus pour avoir uniquement un rôle d'aide et qui prennent plus d'importance que ce qu'on avait prévu et qui deviennent et auxquels on s'attache et ils font une sorte d'entrisme comme ça dans le roman.
Alors Gérald Tenenbaum, donc ce livre, il s'appelle Les Harmoniques, il est édité aux éditions de l'Aube. Eh ben, on souhaite longue vie à ce roman et puis on vous remercie d'être venu nous en parler, Gérald Tenenbaum.
Merci à vous.
Merci.